angolo.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour, c'est un scandale jusqu'ici silencieux qui est en train de transformer l'une des dernières régions boisées d'Afrique de l'Ouest en désert. Le bois de veine de Casamance, si prisé par la classe moyenne chinoise, est en train d'être pillé avec la complicité de la Gambie. L'ancien ministre de l'Environnement sénégalais, Haïdar El Ali, dénonce ce trafic, preuve en images à l'appui. Il sera notre invité tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
Pour nous écrire... c'estpasduvent@rfi.fr.
C'est un endroit majestueux qui ne désemplit pas. Le temple d'or d'Amritsar au Pendjab, dans le nord-ouest de l'Inde, est le lieu le plus sacré du sikhisme, la cinquième religion du monde. Les sikhs, reconnaissables par leurs cheveux longs enrobés dans un turban, croient en un seul dieu, en la réincarnation et à la notion de karma. Posé au milieu d'un immense lac, le temple d'or est accessible par un pont rempli de pèlerins. Sa façade dorée se reflète dans les eaux. Jour et nuit, c'est l'affluence, pour les repas végétariens notamment, qui y sont servis gratuitement 7 jours sur 7. Et depuis quelques mois, les gestionnaires religieux du temple ont décidé que tous les aliments devaient devenir bio, par respect pour la nature et pour montrer l'exemple dans ce pays à l'agriculture ravagée par la révolution verte. Un défi immense à la portée symbolique, c'est un reportage de Sébastien Farcy.
Nous sommes ici, à l'endroit où s'est assis notre cinquième gourou, Arjan Dev, pour superviser la construction de ce temple. C'est donc un lieu important pour nous.
Nous sommes dans le temple d'or d'Amritsar avec Gurjit Singh de l'association Eco Amritsar, une association environnementale de sikhs.
Vous savez, la religion sikh est très ouverte. Vous voyez ici, il y a quatre entrées dans cette cour du temple. C'est parce qu'en Inde, les castes sont rassemblées en quatre groupes. Les brahmanes, Khatri, Shudra et Vaisha. L'intention de Guru Nanak était de les accueillir et de les rendre égaux. Dans ce but, il a donné le même nom à tous les sikhs, Singh. Et par exemple, moi je m'appelle Gurjit Singh. Ceci pour ne pas qu'on puisse deviner de quelle caste je suis.
Il a donc mis fin au système des castes.
Oui, il a mis fin au système de castes, car il ne doit pas y avoir de division entre les hommes. Ils sont tous égaux. Dans le premier chapitre de notre livre saint, il est dit que si vous faites partie de la classe la plus élevée, on attend de vous que vous traitiez tous les êtres humains de la même manière.
Et donc quel est le lien justement entre cette mentalité d'ouverture et le langar, le repas communautaire offert à tout le monde?
Quand nous rentrerons, vous verrez que toute personne, quelle que soit sa caste ou ses origines, vient s'asseoir en ligne pour prendre le langar. Il n'y a aucune restriction. Personne ne vous demandera si vous êtes hindou, musulman ou autre. On vous servira simplement le langar. Le message principal est l'égalité entre les êtres humains. Venez, entrons. Ici, on sert entre 50 et 70 000 repas par jour. Et lors des occasions spéciales, cela peut s'élever à 350 000 personnes. Dans la cuisine, il y a jusqu'à 1800 kilos de lentilles cuisinées dans une seule marmite.
Donc nous arrivons près des cuisines et surtout près de la salle du repas, ce fameux salle du langar, le repas qui est offert à tout le monde qui vient s'asseoir. C'est ici qu'entre 40 000, 50 000, voire 70 000 personnes mangent chaque jour gratuitement. Dans ce temple le plus sacré de la religion sikh, le temple d'or.
Joignez vos mains.
What is the meaning
Pourquoi faut-il recevoir la galette avec les deux mains?
C'est une preuve de respect.
On s'est assis pendant 10 minutes, on se lève, on prend nos assiettes et il nettoie déjà le sol. Et c'est parti pour un nouveau service.
Et cela fonctionne ainsi toute la journée?
Oui, quasiment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La cuisine s'arrête pendant environ une demi-heure le soir. Ici, vous pouvez voir les galettes qui sont préparées.
Qu'est-ce qui est préparé ici?
Ils ont séparé les différentes sections. Les galettes ici, les lentilles là.
And everybody is a volunteer here.
Volunteer.
Ouais, tout le monde ici est bénévole.
Quelques personnes sont payées, mais entre 80 et 90% du personnel ici est bénévole.
Vous pouvez demander à une personne combien de galettes il cuisine ici chaque jour?
Nous avons une machine qui cuit les galettes. Elle en cuit entre 5 et 6 000 par heure. Et elle marche pendant 8 à 10 heures par jour. En plus de cela, une tonne de farine est utilisée pour confectionner des galettes à la main. Cela permet d'en produire beaucoup plus.
La grande majorité de cette farine, de ces oignons et de ces lentilles est offerte au Temple d'Or par les agriculteurs de la région. Une manière pour ces paysans majoritairement sikhs de montrer leur adhésion à ce message de générosité. Mais les institutions religieuses font également pousser une partie des aliments distribués sur leurs propres terres. Cela représente environ 10% de toute la nourriture et c'est là que la révolution est en train de naître. L'organisation responsable de tous les temples sikhs du nord de l'Inde a en effet récemment décidé d'arrêter d'utiliser des engrais et des pesticides chimiques sur une partie de ses champs et de les traiter uniquement de manière biologique. Harcharan Singh, secrétaire en chef élu de cette organisation sikh du SGPC, nous reçoit dans son bureau situé dans l'enceinte du Temple d'Or et nous explique comment il a l'intention d'étendre ce mouvement.
Nous avons des milliers d'acres de terre autour des temples, dont plus de 60 hectares sont traités de manière biologique. L'un de ces champs se situe à côté d'Amritsar, avec un spécialiste dédié. Les récoltes et les légumes de cette terre sont entièrement utilisés ici pour le langar. Mais cela n'est que le début, car l'énorme quantité dont nous avons besoin ne peut être produite par 60 hectares de terre. Donc nous utilisons également les aliments offerts par les agriculteurs. Aujourd'hui, 80% de la nourriture cuisinée vient de leur don. Et nous les acceptons, que ces légumes soient biologiques ou pas. Nous ne pouvons pas les refuser. Mais nous espérons qu'à travers notre exemple, nous les encouragerons à se convertir à l'agriculture biologique.
Nous partons donc maintenant avec Gurjit à la découverte des premiers champs biologiques lancés par les autorités religieuses autour des temples sikhs appelés Gurudwara. Et au bout d'une heure de route, nous arrivons à Satlani Sahib, à une quarantaine de kilomètres d'Amritsar. Nous apercevons de loin les deux grandes flèches d'une trentaine de mètres de haut érigées devant ce lieu saint. Et tout autour s'étendent de grandes plantations. Ce temple possède 20 hectares de terre et depuis le mois de décembre dernier, près du tiers est dédié à l'agriculture biologique. On y fait pousser de tout, des radis aux épinards en passant par les carottes et le blé bien sûr. Cela encadré par un fermier bien costaud qui arbore un sourire généreux sous un grand turban indigo. Hardeep Singh est le responsable de ce projet novateur et il nous emmène sur ses champs très enthousiaste.
Regardez celui-là, il est plus petit.
Et l'autre, qui a grandi de manière biologique, il est gros. Et ils n'ont que 2 semaines de différence d'âge.
Et qu'est-ce que vous utilisez comme pesticide biologique alors ?
Du lassi, c'est tout. Cela fait fuir les petits insectes qui aiment le blé. Pour les autres semences, nous utilisons également des piments verts et rouges et des feuilles de margousier comme insecticide. Puis, pour fertiliser la terre, nous composons ce que nous appelons du givamrit, principalement constitué de bouse et d'urine de vache et de sucre jaggery. C'est de l'agriculture 100% indienne. Et cela marche, il n'y a pas eu de baisse de rendement. Et les légumes sont beaux, les radis sont parfois aussi longs que l'avant-bras. Les petits pois sont sucrés. Et puis c'est moins cher. Avant, nous devions payer 60 euros pour les engrais et les pesticides. Maintenant, nos buffles nous fournissent l'essentiel de nos engrais.
Et si ça marche aussi bien, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ce changement avant ?
C'est que je n'avais jamais entendu parler de ces méthodes. J'ai 48 ans et je ne savais pas qu'on pouvait faire cela.
Et est-ce que vous avez commencé maintenant à en parler aux autres agriculteurs ?
Quand nous avons commencé à convertir nos champs au biologique, les autres paysans m'ont dit que j'allais tout perdre. Maintenant, ils sont impressionnés, mais ils ne sont pas prêts à changer. C'est trop d'efforts pour eux, surtout pour désherber. C'est plus difficile.
Dans les années 70, la terre agricole et bien irriguée du Pendjab a été au cœur de la révolution verte indienne. Le gouvernement voulait mettre fin aux terribles carences alimentaires de la population et il a ainsi financé l'introduction d'importantes doses de pesticides et d'engrais chimiques dans l'agriculture et particulièrement pour le riz et le blé. Cela a permis en une vingtaine d'années de tripler le rendement des champs de riz par exemple et a transformé l'Inde en exportateur de cette graine. Cependant, après 2 décennies, les agriculteurs ont vu leur rendement baisser de manière drastique car les terres avaient perdu de leur richesse naturelle à cause des énormes doses de nitrate, de phosphore et de potassium qu'elles ont reçues pendant toutes ces années. Pour remédier à cette crise, les agriculteurs ont commencé à en mettre encore plus de pesticides, encore plus d'engrais. Une dangereuse course en avant que décrit Gunbir Singh, le représentant de WWF au Pendjab.
To get more and more productivity from the soil, we kept drawing more and more ground.
Pour continuer à obtenir une meilleure productivité, nous avons extrait de plus en plus d'eau des sous-sols et ajouté de plus en plus de pesticides et d'engrais. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les réserves d'eau en surface, les nappes phréatiques, et les terres sont devenues polluées. Et la preuve de ces dommages, c'est la détérioration de la santé des habitants du Pendjab. Les ressources en eau se sont asséchées, car faire pousser du riz, cela demande énormément d'eau. Et donc les agriculteurs pompent abondamment l'eau du sol et inondent les champs. Donc tous ces facteurs ont contribué à la situation actuelle. Et il nous faut maintenant passer à un système de culture intensive pour les aliments de base dont nous avons réellement besoin. Diversifier ce que nous faisons pousser et introduire des cultures plus rémunératrices et organiques. C'est la seule manière pour reconstituer nos ressources en eau et enrichir de nouveau nos sols.
Cette transition demandera toutefois du temps et pourrait être douloureuse, prévient ce représentant local de WWF.
Productivity will drop. It's bound to happen because we have through our toxic inputs.
La productivité va chuter. C'est inévitable. Parce qu'en ajoutant autant de produits toxiques, nous avons également tué tous les insectes bénéfiques du sol. Nous avons besoin que les vers de terre reviennent, que ces insectes utiles, qui représentent 95% des insectes qu'on trouve ici, reviennent aussi et tuent ceux qui sont nuisibles. Nous avons besoin que l'eau redevienne douce. Et pour que cela arrive, cela va prendre du temps. Il est possible que nous souffrions de cette diversification pendant 3 ans maximum, car un champ met 3 ans à être converti en biologique. Il faut donc maintenant créer des exploitations intégrées qui comprendront de l'élevage de vaches pour créer le compost, ainsi que d'autres éléments pour augmenter les revenus de l'agriculteur, comme de l'apiculture ou de la pisciculture. Ces activités ne prennent pas trop de place et lui permettent de compenser la baisse temporaire de productivité. Il est temps de cesser cette agriculture toxique et de revenir à quelque chose de naturel.
Ces changements seront en effet longs à mettre en place, car il faudra d'abord que l'État soit convaincu de ses bienfaits. Or, cela est loin d'être le cas pour l'instant. Le gouvernement indien a par exemple déboursé, rien que pour l'année dernière, 10 milliards d'euros sous forme de subventions agricoles pour l'achat d'engrais chimiques. Un chiffre qui a été multiplié par 4 en 10 ans, une tendance qui n'incite pas vraiment les paysans à changer leur voie. Mais même si les autorités se mettent à défendre l'agriculture biologique, il faudra encore changer les mentalités, expliquer aux paysans comment transformer leurs champs et les convaincre qu'ils ne vont pas tout perdre d'un coup. C'est cela que sont venus faire les membres de l'association Ecosic dans un village rural situé à 30 km de Firozpur, à l'ouest du Pendjab. Là, au milieu des champs de blé prêts à être moissonnés, ils ont organisé une journée de rencontres et de sensibilisation à l'agriculture biologique à travers des exemples de réussite, comme celui de Kamal Singh Hayer, qui fait pousser 70 différents types de légumes par an sur ses 28 hectares de terre, tout ceci sans pesticides ni engrais chimiques.
Nous sommes 3 agriculteurs pour nous occuper des terres et nous avons réussi à créer une plantation avec un budget nul. C'est-à-dire que nous n'avons aucun coût parce que nous fabriquons nous-mêmes tous nos pesticides. Donc, si on a une mauvaise récolte, ça ne nous ruine pas. Quand nous avons commencé, les rendements étaient moitié moins élevés que ceux des autres exploitations. Mais ensuite, ça a augmenté.
Autour du petit chapiteau où viennent parler les intervenants, des discussions et des débats naissent entre les agriculteurs. Nous nous invitons dans l'une d'entre elles. Gurjit Singh, d'Eco Amritsar, est en pleine conversation avec Hardeep Singh, un agriculteur. Ce dernier écoute de manière très concentrée. Sa tête ondule dans un sens, puis dans un autre. Il pèse le pour et le contre, les coûts et les bénéfices de ce potentiel changement.
Aujourd'hui, j'ai 12 hectares de terre sur lesquels je fais pousser du blé de manière conventionnelle. En plus, nous avons réservé un demi-acre à de l'agriculture biologique pour la consommation de ma famille. Je veux bien étendre cette superficie, mais pour faire cela, je dois engager beaucoup de travailleurs pour désherber. Et il ne me restera plus d'argent à la fin. Aujourd'hui, je peux le faire moi-même sur ma petite parcelle.
Mais réfléchissez, les pesticides coûtent déjà 5000 roupies par kilo. Si vous n'en utilisez plus, vous pouvez alors employer des gens. Pareil pour les engrais.
Oui, c'est vrai, je dépense 300 roupies juste pour les engrais.
À la place, vous pouvez utiliser du lassis pour le blé. Rien que du lassis. Je vais vous montrer les photos des épis qu'on a vus. Vous pouvez le faire également. Doucement, de manière graduelle, et vous verrez que cela marche.
À la fin de la conversation, plusieurs agriculteurs nous rejoignent et écoutent Gurjit attentivement. L'un d'entre eux nous raconte gravement et en aparté l'histoire du district de Bathinda au Pendjab, connu pour être la capitale de production du coton. Là, les agriculteurs ont tellement utilisé et abusé de pesticides chimiques pour cette plantation que les habitants ont commencé à tomber gravement malades et à développer des cancers. Les agriculteurs sont donc de plus en plus conscients des dangers des pesticides et cette journée de rencontre leur aura permis de connaître quelques alternatives. Il faudra maintenant que le gouvernement les aide à réaliser cette transition et surtout à trouver des débouchés à travers la création de labels par exemple pour ces produits biologiques souvent un peu plus chers que leurs concurrents conventionnels.
Un reportage de Sébastien Farcy réalisé par François Porcheron. Restez sur RFI juste après le flash d'info. L'écologiste sénégalais Haïdar El Ali sera notre invité pour dénoncer le scandale du pillage des forêts de Casamance. A tout de suite.
Éco d'ici, éco